de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il est bon de tenir son journal intime lorsque l'on est un petit gentleman campagnard du Cotentin et que l'on vit au XVIe siècle. Un jour, ce journal sera retrouvé, lu, édité, et les historiens se régaleront des 5000 journées ainsi relatées, qui racontaient le siècle en question, nous éclairent sur la société de ce temps, sur les travaux agricoles, ceux qu'un noble pouvait exercer sans perdre son statut, sur sa foi, sur ses activités de rebouteux, sur ses relations avec le clergé. Le gentleman farmer vivait en célibataire avec ses frères et sœurs bâtards et ses serviteurs. Et, on l'a dit, tenait son journal. D'où sa réapparition dans une série de deux émissions de la série « Les Inconnus de l'Histoire » proposée par Jean Montalbetti. Vous avez pu découvrir Gilles de Gouberville lors de la première émission. La deuxième nous éclairera encore plus sur le personnage. Première diffusion de cette émission, le 22 janvier 1982.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconhecidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'omano, sirare zaro.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire. Le sire de Gouberville, 1521-1578. Et le sieur du Ménildo, en 1982. Enquête sur un gentilhomme campagnard du Cotentin sous le règne d'Henri II par Jean Montalbetti. Médiateur Pierre Chaunu. Expert Emmanuel Leroy-Ladurie et Madeleine Foisil. Lecture Yves-Marie. Réalisation Albert Morin.
Monsieur du Ménildo, vous venez de rentrer avec votre tracteur plein de betteraves. C'est le moment où on ramasse les betteraves ?
Oui, c'est ça, oui. Enfin, oui, c'est l'époque où on ramasse les betteraves pour les vaches. Enfin, pour les vaches, elles sont déjà ramassées. Là, ce sont des betteraves pour vendre. Alors, on les ramasse et puis, je ne sais pas, enfin, d'ici un ou deux mois, il y aura un marchand qui passera, puis on les mettra dans son camion et puis ça sera livré.
Et en attendant, vous les déversez au milieu de la cour de ferme ?
C'est ça, oui. Oui, après, il va falloir qu'elle soit couverte de, d'épilures, vous savez, genre fougères ou mauvais foin, pour les préserver de la gelée. Et ben, ça sera le travail, ça, pour les betteraves, ça sera terminé à ce moment-là.
Votre exploitation agricole couvre combien d'hectares ?
Une trentaine d'hectares, à peu près.
Et sur les 30 hectares, surtout de l'élevage ou un peu de culture ?
C'est un mélange par ici. Enfin, j'ai principalement de l'élevage, mais un peu de culture légumière, un peu de blé et un peu de betterave aussi, voilà.
Et essentiellement pour nourrir les bestiaux.
Les betteraves, il y en a la moitié que je fais pour nourrir les bestiaux et l'autre moitié pour vendre à des éleveurs de l'intérieur des terres qui, eux, font moins de labour et achètent tous les ans à peu près des betteraves dans le coin. Là.
On rentre les vaches, là, cette heure-là. Il est 5 heures.
Il est 5 heures, ils rentrent les vaches, elles vont manger leur ration de betteraves. Et d'ici, quand elles auront mangé leur ration de betteraves, d'ici une heure à peu près, il est très rare, elles seront traites.
Vous en avez combien ?
Là, j'ai une vingtaine de vaches. peu près, quoi. Non, il y en a, je sais pas, 13, 14 ou 15 à qui sont. Il y en a 3 ou 4 de sèches parmi les vaches, quoi, parmi elles.
Et j'ai vu en rentrant dans une étable que vous aviez 3 veaux, c'est ça?
Ah, j'ai plus de 3 veaux, j'ai, je sais pas, il y a 5-6 veaux là dans l'étable qui est en face, là. Oui, oui, non. Hein? Il y en a 4 petites génisses, c'est ça, 4 petites génisses, oui, les autres sont dehors. Alors, il y en a le long de la rivière, là, un peu plus âgé. Puis alors, j'en ai plus loin encore, là, des veaux d'élevage, enfin, des bêtes d'élevage, ça va depuis, je sais pas, ces bêtes-là qui ont 4 mois jusqu'à 2 ans, prêtes à faire saillir, et seront saillies, puis vendues à 3 ans, ou bien remplaceront les mères qui seront défaillantes, là, qui ne donneront plus de lait, ou qui n'auront pas voulu remplir, ou. Ah, vous voyez, quoi.
Guillaume Picot, sire de Gouberville, vivait en célibataire au XVIe siècle dans son manoir du Ménil-Auval, au sud de Cherbourg, faisant valoir un domaine d'une 50aine d'hectares de terre. Il était entouré par son demi-frère, Simonet, sa demi-sœur, Guillemette, 3 servantes et une 10aine d'ouvriers agricoles. De 1549 à 1562, c'est-à-dire de l'âge de 28 ans à celui de 41 ans, Gilles de Gouberville nous a laissé dans un journal intitulé « Mises et recettes » un compte précis de quelques 5000 journées de la vie d'un gentilhomme campagnard de la Renaissance. À quelques kilomètres du Ménil-Auval, sur la route de Valogne, nous nous sommes arrêtés à Anneville-en-Serre, au manoir où vit un gentilhomme campagnard d'aujourd'hui à la tête de son exploitation agricole. Monsieur Louis du Ménildo.
Madame, ça c'est la maison d'habitation des commis. Là, vous avez le cellier où il y avait il y a les tonneaux acides. Plus loin, c'est le pressoir qui ne sert plus. Plus loin, c'est la grange à foin. Enfin, une grange qui sert dans le temps, c'était la grange pour ramasser le blé. Maintenant, ça sert uniquement à rentrer le foin. Alors là, vous avez les tables où sont les vaches. Et puis après, c'est une succession d'étables. Puis ça, sont les anciennes charteries, là, qui sont très jolies d'ailleurs. Puis après, c'est un ancien four qui a été une porcherie qui maintenant est un. Comment donc? On appelle ça des cotins, enfin, pour les poulets. Vous savez, enfin, la femme Madeleine là, élève des poulets, là, dans ces cotins-là.
Poulet et lapin.
Poulet et lapin, oui, vous avez les voir. Et poulet et lapin, oui, on ne peut rien vous cacher.
Et sur cette exploitation, combien de personnes travaillent avec vous?
En principe, j'ai mon commis et sa femme, chacun à mi-temps, si vous voulez. À un moment, j'avais l'homme seul, et puis il a vieilli et il touche une partie de sa retraite. Il a le droit de toucher une partie de sa retraite, il n'a plus le droit de travailler à temps complet. Alors, c'est moitié-moitié. Voilà, bon, ça fait un commis complet, si vous voulez.
Le manoir d'Anneville-en-Serre a été commencé au XVIIe siècle. Il offre une belle façade du XVIIIe. La demeure du maître se trouve au bout d'une longue allée d'entrée qui masque sur la gauche la cour de ferme, la maison des commis, les dépendances et les étables. La demeure est austère, celle d'un célibataire, nous dit M. du Ménildo. Les nombreux travaux nécessaires à l'entretien du manoir ne peuvent être supportés par l'exploitation agricole. Avec l'historienne Madeleine Foisil, nous prenons place au coin d'un feu de bois.
Comment sommes-nous situés dans ce Cotentin ici,
Anneville-en-Serre? Ah ben là, vous êtes en plein Val de Serre. En plein Val de Serre, la vallée de la Serre. Qui part à peu près de, justement, à peu près de Gouberville, là-bas, si vous voulez, et qui finit à Réville.
Et vous vivez ici, dans cette grande maison, je crois, depuis de très nombreuses années, et
seul?
Oui, depuis
une trentaine d'années, seul, oui, seul, voilà, célibataire, oui.
Qu'est-ce que c'est, votre vie de célibataire, dans ce manoir, à la tête de cette exploitation agricole que vous dirigez?
Bah, c'est la vie d'un chef d'exploitation agricole à notre époque, là, sur une terre à peu près d'une trentaine d'hectares. Alors, je ne sais pas, s'occuper des labours, des bêtes, les vendre. L'occupation normale d'un autre exploitant agricole. Hein. Pour moi, c'est plutôt mes commis qui s'occupent des bêtes. Moi je m'occupe plutôt, question tracteur, je m'occupe des labours, des semis, l'entretien des haies, parce qu'il y a des machines maintenant pour les tondre. Alors, vous voyez, c'est ça.
Les gens que nous avons vus dans la cour de ferme, vos commis, qui travaillent avec vous depuis longtemps, ce sont des familles.
Eux,
auxquelles
il
vous
doit
êtes
y avoir
associé.
22 ans qu'ils sont là, oui, je crois. C'est pas moi qui sais la date, c'est eux qui me l'ont dit. Alors, oui, ça fait très longtemps, oui. Alors le fait que je suis célibataire, ça me rapproche quand même assez d'eux. Vous savez, on vit pas en famille, mais c'est très proche. Les événements qui les touchent me touchent, et un peu inversement. C'est vrai. Je vois, ils ont marié deux de leurs enfants. Ils sont mariés, ils sont pas mariés à la ferme, ils sont mariés dans le manoir, là, dans les grandes pièces que j'ai de l'autre côté, qui ne servent que dans ces occasions-là. Mariage, baptême, je sais pas, j'en ai déjà trois ou quatre. Communion, qui est très important à la campagne. Tout ça, ça a lieu au manoir.
Est-ce que c'est assez exceptionnel, ce type d'association entre un exploitant agricole et des commis? On nous a dit qu'il y avait essentiellement des exploitations familiales et qu'on ne trouvait pas d'ouvriers.
Maintenant, à l'heure actuelle, c'est de moins en moins fréquent. Oui, c'est un peu le fait que je suis célibataire, que je suis propriétaire en plus, ce qui me donne des facilités, puis que, enfin, je me contente d'une vie peut-être très argentée. C'est ça qui permet d'avoir un commis à l'heure actuelle. Si je faisais valoir ça, normalement, comme le fait valoir, un cultivateur, je devrais faire valoir une ferme comme la maison d'Anneville avec ma femme.
Vous êtes le chef de cette exploitation agricole, vous travaillez et vous vivez d'une certaine façon avec ces paysans qui travaillent avec vous, ces commis. En même temps, vous êtes un gentilhomme campagnard, vous vivez dans un manoir qui est une très belle demeure du 17e et 18e siècle.
Oui, d'accord, oui.
Alors, comment est-ce que vous êtes à la fois proche et probablement ressenti comme différent?
Alors là, vous me posez une question qui n'est pas facile du tout. Je ne sais pas du tout s'il faudrait demander aux gens comment ils le ressentent. Je vis leur vie, vous savez. Au fond, je vois pas tellement la différence.
Mais vous savez que cette différence existe.
Pas tellement, un peu. Encore, vous savez, ça s'atténue terriblement. Il faudrait mieux parler ça à la génération précédente qu'à la mienne.
Vous savez, ça s'atténue. Vous ne parlez pas comme eux, vous n'avez pas la même culture qu'eux. Vous n'avez les mêmes goûts que... Vous ne vivez pas dans une même demeure, vous ne voyez pas les mêmes personnes.
Il y a des cultivateurs qui ont des demeures qui valent bien la mienne. Allez à Escarbeauville, allez à Auto, allez... ce sont des manoirs qui sont aussi... Enfin, je ne sais pas s'ils sont jolis, parce qu'on prétend que ma maison est la plus jolie du coin, j'y suis pour rien, donc je peux bien le dire. C'est vraiment, j'y suis absolument pour rien. Mais enfin, il y a de très jolis manoirs, et ils sont conscients d'habiter des belles choses.
On a l'impression que, justement, cette proximité met ses différences... isole d'une certaine façon Gilles de Gouberville, et qu'il est finalement assez solitaire, bien que vivant avec des membres de sa famille, des demi-frères, des demi-sœurs, bien que vivant entouré par ses serviteurs, ses domestiques, qui sont une bonne douzaine autour de lui, vivant dans la même demeure, et que c'est peut-être une des raisons de l'existence de ce journal quotidien qu'il tient, même s'il s'y confie peu.
J'ai une cousine qui tient un journal comme ça depuis, mais... je vois pas la raison, justement, du journal. Surtout quand on leur lit jamais. Alors là, ça me dépasse un peu. Oui, je vois pas la...
Vous n'avez jamais été tenté par la tenue d'un journal?
Non, si, j'ai fait ça au collège. C'était un peu pour... C'est parce que je n'y faisais rien, c'était une occupation. Mais en plus, bon, voilà, vous savez, les réflexions sur les professeurs, enfin, essayer de faire un peu d'esprit, ce qui n'était certainement pas réussi, bien rarement.
Madame Foisil, est-ce que vous n'avez pas un petit peu ce sentiment pour Gilles de Gouberville?
Au fond, j'ai analysé Gilles de Gouberville par son texte, mais aussi dans un éclairage. Et dans un éclairage dont vous donniez la définition tout à l'heure, c'est peut-être l'éclairage davantage de la génération qui nous a précédés que de la génération actuelle. En ce sens, je crois que dans la génération précédente, un gentilhomme campagnard, tel que vous êtes, tel qu'était Gilles de Gouberville au XVIe siècle, avait quand même une singularité encore très grande. Je crois que vous-même, vous en pourriez en citer beaucoup d'exemples, et moi, j'ai connu un certain nombre d'exemples. Et en plus, comme Gouberville est un célibataire, est un homme qui vit dans un manoir qui est très isolé, au moins aussi isolé qu'Anneville en Serre, même peut-être plus par le
oui, plus,
n'est-ce
oui.
pas Oui. Eh bien, son journal reflète en quelque sorte cet isolement. Et c'est une question que j'ai posée sans savoir si j'allais la résoudre par rapport justement à des gens qui écrivent des journaux. Il y a toujours une raison, vous me donniez une raison pour y avoir écrit un journal quand vous étiez très jeune. Il y a toujours une raison à un journal. Et le fait qu'il ait tenu ce texte tous les jours, jour après jour, ça m'a paru en effet le reflet d'une solitude, d'un isolement, d'une distraction, d'une nécessité en quelque sorte de distraction. Maintenant les possibilités de distraction sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus grandes. Alors voilà, moi je l'ai ressenti comme ça et je continue à le ressentir tel quel. Parce qu'il est vrai, il vit dans un milieu rural que vous avez dépeint d'ailleurs dans ces grandes lignes, qui est finalement un petit peu le même, n'est-ce pas, je crois, et, mais en même temps dans une distance indiscutable, à la fois dans une familiarité et quand même dans une distance. Mais il est très très attaché, c'est peut-être aussi votre cas, monsieur, je ne sais pas, mais il est quand même très très attaché à son étiquette nobiliaire. Il ne renonce pas du tout.
Ça se sent dans son journal, oui.
Oui, ça se sent, parce qu'à un moment donné où sa qualité nobiliaire peut être mise en question, n'est-ce pas ? Il défend sa qualité nobiliaire.
Oui, mais ce sont des questions d'intérêt, ça aussi. Il n'avait pas envie de payer d'impôts, non ? Non, je ne sais pas.
Oui,
non.
Oui.
Il y a les deux, certainement.
Bon, je pense que, si vous voulez, le souci d'être et de paraître, regardez dans son habillement. Ça, c'est extraordinaire. L'habillement de Gouberville est un habillement qui est... Or, ça a une énorme importance dans ces périodes du XVIe et du XVIIe.
Comment est-il habillé ?
Bien, écoutez, il est habillé long, alors que le paysan, n'est-ce pas, s'habille de manière, enfin, à la fois économique et pratique, n'est-ce pas ? L'économie et le pratique, et puis la pauvreté, quand même, existe malgré tout. Gouberville s'habille avec énormément de faste. Ça m'a beaucoup frappé. Bien sûr, un gentilhomme de cour, chabarré, trouverait peut-être qu'il est bien mal habillé, je n'en doute pas, mais malgré tout, il se distingue véritablement par l'habillement. Et je pense que quand il va à Valognes, quand il va le dimanche à la messe, quand il va à droite et à gauche, ce bel habit, cette belle robe, ce beau manteau, avec doublé de fourrure, or la fourrure c'est quelque chose de très précieux et de très coûteux, eh bien le chapeau, il a des chapeaux de feutre, et le chapeau a beaucoup d'importance dans la représentation, il a une calotte de soie, il a des chemises de soie, etc. Alors là vraiment, c'est quand même un goût du paraître qui indique qu'il a vraiment le désir de n'être pas du tout confondu avec un entourage plus modeste.
À la seigneurie, conçue comme institution, répond sur un tout autre plan la noblesse, comme valeur et comme gradin ou gratin social, qui discrimine son titulaire d'après le vulgum pecus. Comment donc Gouberville, authentiquement noble et d'ancienne race, vit-il sa noblesse ? Ni le sang bleu, transmis par son père et ses ancêtres, et qui théoriquement coule dans ses veines, ni non plus le sang rouge que, pour être fidèle à sa vocation martiale d'aristocrate, il devrait de temps à autre verser de ses artères ou de celles d'autrui sur les champs de bataille, ne le tracasse outre mesure. Cette double indifférence aux exploits du paladin comme à l'obsession du pédigré s'explique d'abord par une certaine psychologie. Gouberville est très peu l'homme d'une lignée parce que, comme beaucoup de ses contemporains du monde rural, il est nature. Il vit dans l'instant, dans l'indifférence au temps historique. Même ses parents, décédés, sont très loin de sa mémoire et de sa sensibilité. De sa mère, il n'est presque jamais question dans son journal. De son père, dont par ailleurs il respecte la progéniture encore vivante, il n'est question qu'une ou deux fois. À propos, par exemple, d'une vieille affaire d'argent qui mit ce père face à face avec un certain Gilles le Maçon. Les seules personnes qui comptent profondément pour le sire du Ménil sont les vivants. Et d'abord ses frères et sœurs, pour la haine ou pour l'amour. Quant aux morts, Dieu est leur âme, et que périsse à tout jamais leur souvenir.
Lorsqu'il tient son journal, note beaucoup d'événements de sa vie. Par contre, son journal ne contient pas beaucoup d'informations sur ses sentiments et même sur son physique. Est-ce que l'on pourrait pourtant essayer d'en dresser un portrait tel que vous l'avez vu apparaître dans la suite du journal.
Ah là, alors vraiment, je crois que le portrait physique Courbeville est impossible à faire. Et ça, c'est très très malheureux. Alors on peut se le figurer, on peut se... Je vois, c'est bien comme vous, monsieur. Je le vois bien. Je le vois très bien.
On a des portraits de famille, hein. peut-être pas le 16e.
Pas pour le 16e.
Dans le 17e.
Pour le 17e, ça. Voilà. Si on essayait de le portraiturer, que pourrait-on faire? On pourrait le prendre par la manière de vivre, par son côté tout de même. Par exemple, c'est un homme qui aime le bien manger, le bien boire, bien qu'il ne s'étende pas énormément là-dessus. Alors, à partir de là, on peut imaginer que finalement, il a un physique bon, solide. Et d'autre part, il dit qu'il est allé à Rouen et qu'il se faisait soigner, en particulier il parlait de réplession pour un autre. Mais comme quelquefois il dissimule et qu'il prête à d'autres ce qu'il est lui-même, on peut se demander si, en effet, il n'avait pas eu des nécessités de suivre un peu un régime qui lui permette de s'affiner un petit peu. Maintenant, au-delà, est-il grand, est-il petit, enfin, est-il... Ça, c'est... Encore une fois, moi, je le vois bien comme monsieur du Médildo.
Emmanuel Leroy Ladurie a tenté un portrait à la fois psychologique et physique du personnage. Il emploie des expressions comme celle-ci, un gros exploitant actif, esprit curieux. Il parle de son omnipotence bonasse de notre maître. Un paysan dégrossi, décoré d'un titre de gentilhomme. Il dit qu'il n'a pas l'esprit de profit, mais à l'esprit de caste. Et il emploie une autre expression imagée, un faune hirsute et nauséabond, probablement vérolé.
On pourrait peut-être dire ça de beaucoup de gentilhommes à l'époque, non?
Ah oui, je crois sévère, je le trouve un peu sévère. Ce qui m'a frappé, enfin peut-être que... Vous voulez, parce que je me suis passionnée pour ce texte, parce que je l'ai regardé beaucoup. Je le crois plus affiné. Le Roi Ladurie tient beaucoup à ce côté presque fruste. Enfin, il le voit un peu comme un vacher, etc. Moi, je crois qu'il est mieux que cela. Enfin.
Allons plus loin. Ce paysan dégrossi, décoré d'un titre de gentilhomme, est à peine l'homme d'un nom de famille. La hantise de l'onomastique lignagère où nous serions tentés, lecteurs de Proust que nous sommes, de voir la marque authentique de la noblesse, n'existe guère pour Courbeville. Et sur ce point, il se conforme à la mentalité de ses semblables. Sa véritable identité n'est pas dans son nom, mais dans sa terre, support de sa seigneurie.
Il y a environ 12 à 14 personnes parmi les domestiques, les serviteurs et les servantes de Gilles de Courbeville. Qu'est-ce que ça représente économiquement et socialement à l'époque?
Pour l'époque, 12 domestiques, je ne sais pas, c'était pas tellement énorme, je crois pas.
Au Ménil-Ouval, il y a une cinquantaine d'hectares à peu près.
Oui, c'est ça, j'ai calculé.
Oui, maintenant, oui, bien sûr, bah oui, une douzaine de personnes. Ça... Oui. Puis alors là-dedans, il y avait peut-être des journaliers qui venaient tous les jours.
La plupart de ces domestiques sont simplement logés et nourris. Il y a également une rémunération en nature.
Il y a des salaires. Il y a des salaires, mais alors, il y a tout de même des rémunérations en nature. Et une rémunération qui est très intéressante, c'est celle des souliers. On rémunère en souliers. Et d'ailleurs, ça prouve qu'on est chaussé.
Une fois par an ?
Une ou deux fois par an. Et alors, ça n'est pas l'argent pour aller acheter des souliers, ce sont les souliers qui sont fournis, que ce soit aux hommes ou que ce soit aux femmes. C'est quand même assez intéressant. Il y a une rémunération quelquefois avec la possibilité d'élever un animal, enfin un animal domestique sur la terre, du manoir. Et puis alors, il y a des rémunérations en argent, mais qui ne se font jamais de manière... D'ailleurs, ça prouve, au fond, le peu de place que tient, finalement, l'argent, monnaie dans la vie de l'époque, car Gouberville n'est jamais... Je ne crois pas que ce soit de l'avarice ou de la parcimonie de sa part. Je crois que ça fait partie d'une manière de vivre et d'exister. Au fond, il paie les gages, et à Paris d'ailleurs ça existe de la même manière, il paie ses servantes quand elles partent. Il a gardé, par exemple, Jeanne Labeauté, qui est la Guyonne. Il y a eu Guyonne aussi, puis alors Guyonne était voleuse, alors on n'a pas gardé Guyonne indéfiniment. Et alors, il les paie une fois qu'elles s'en vont, n'est-ce pas? Je donnais tant pour 3 ans de Guyonne, tant pour 3 ans de Jeanne Labeauté. Vous voyez, il donne à la fin de l'emploi. Et c'est une manière d'endettement, si vous voulez, d'ailleurs qu'il faudrait peut-être reprendre plus en détail, plus serrer tous ces chiffres. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est moins le niveau des chiffres que le niveau des mœurs. Enfin, c'est cette place faite beaucoup plus à la nourriture, à l'existence quotidienne. Au fond, l'argent, il faut bien le reconnaître, on n'en a pas un immense besoin immédiat. Si, en effet, les domestiques, ils les paient, d'ailleurs, en faisant des calculs, en disant « il me devait tant, moi je leur dois tant », etc., quand il fait faire des travaux, que ce soit des travaux de couture, parce qu'il a un couturier, qui est Thomas Girard, qui fait ses vêtements dans la salle du manoir, d'ailleurs, il a des charpentiers, il a des couvreurs, et alors là, il les paie beaucoup plus régulièrement. Et quelquefois, il les prend à la tâche, n'est-ce pas? Mais il y a des systèmes de paiement qui ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est pas du tout uniforme, si vous voulez, comme ça l'est maintenant, où c'est tout de même beaucoup plus bon de payer les gens.
Avec le livre de comptes « Mises et recettes » de Gilles de Gouberville, qui s'étend sur 13 années de la seconde moitié du XVIe siècle, a-t-on une photographie de ce qu'était la vie rurale d'un petit gentilhomme normand du Cotentin, ou plus largement, une sorte de fresque de la vie des campagnes en France à cette époque? Est-ce que là, selon les régions, il y a des différences très profondes? Pierre Chaunu.
Oui. Il y a évidemment des traits qui sont tout à fait particuliers à ce coin. Nous sommes dans le nord du Cotentin. Ça, c'est quand même une région qui est très typée. Vous avez le problème, par exemple, du passage du Grand V. Enfin, tout cela, ce n'est quand même pas n'importe quel endroit. Si vous étiez en Auvergne, si vous étiez en Champagne, vous n'auriez certainement pas le même cadre. Maintenant, ceci étant, il n'est pas douteux que cette structure, cette espèce de, disons, d'exploitation un peu grande, un peu forte, au milieu de paysans parcellaires. Parce que autour de Gouberville, il y a des gens qui gravitent. Il y a à côté de lui des artisans, il y a des paysans, il y a des gens qui sont ses égaux dans des villages voisins, et puis il y a des gens qui sont dans le fond dans une position inférieure, mais enfin qui ne sont pas ses esclaves, le moins du monde. Donc, à l'intérieur d'une communauté, cette espèce de pôle que représente ce type d'exploitation, eh bien, je crois que ce n'est peut-être pas typique de la totalité des campagnes françaises, et je dirais même de la totalité de l'Europe occidentale, de la chrétienté latine, ce qui caractérise très profondément les campagnes du XVIe siècle, déjà, c'est que c'est un monde d'entrepreneurs. Et que, dans une certaine mesure, Gouberville est un micro-entrepreneur, mais c'est un entrepreneur. Et il a autour de lui des micro-entrepreneurs. Il a des artisans, il y a des gens avec qui il négocie, il passe un contrat verbal.
Alors, quel est le type d'exploitation? C'est tout de même une exploitation agricole, avec culture et une partie d'élevage.
Polyculture, qui essaye essentiellement de se suffire à elle-même.
Voilà. Alors, qui est fondé sur l'autosuffisance et l'autoconsommation?
Avec quand même une insertion, n'est-ce pas? Évidemment, si on le compare aux situations actuelles, c'est essentiellement l'autosuffisance, cette polyculture qui n'étonnait pas l'abbé d'Olmer.
C'est-à-dire qui demeure au XIXe siècle.
Qui a demeuré jusque vers 1850-1860. Donc, cette autosuffisance est une des caractéristiques d'un monde où les transports sont extrêmement coûteux, extrêmement difficiles. Regardez tous les ennuis que l'on a sur les routes, les chemins boueux, etc. La plupart des accidents du travail sont des accidents qui se produisent autour des charrois. C'est, on est coincé. D'ailleurs, le Gouberville lui-même, enfin, a été blessé gravement une fois, vraisemblablement, enfin, en étant à côté d'un charroi et en voulant donner des injonctions à ses charretiers.
Donc, peu d'échanges.
Donc, relativement peu d'échanges, mais cependant, quand même, des échanges. Enfin, d'autre part, on a quand même des choses que l'on doit au roi. Le sieur de Gouberville ne doit pas, mais enfin, il a de l'argent, il paye, il y a de la monnaie, de l'or, de l'argent, et surtout, naturellement, du cuivre, du billon.
Oui, mais pourtant, pas tellement dans, justement, ce qui serait la vie économique et financière de Gouberville. Il y a souvent du troc en nature,
oui, bien
ou des
sûr.
Gages payés en
absolument.
Nature.
C'est ce qu'on appelle
mais
l'argent c'est le troc comptabilisé.
Occupe un rôle
c'est
réduit.
Ça, c'est ce que me vrai appeler le troc comptabilisé. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait des comptes. C'est-à-dire que, en général, si vous voulez, on ne troquait pas un cheval contre trois moutons. Ce n'est pas ce type de troc. Vous traduisez les objets en valeur monétaire, et puis ensuite, vous faites un accord de clearing. En réalité, on procède à l'intérieur des campagnes, je dirais comme on procède à l'heure actuelle dans le commerce international. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, par une sorte de jeu, eh bien, finalement, vous m'avez donné tant, vous m'avez rendu tant de services, vous m'avez donné tant de choses qui représentent telle valeur monétaire, valeur de marché, je vous ai donné en échange tant de choses, eh bien, on fait la différence. Et finalement, on évitera au maximum le transfert monétaire, parce que c'est exact qu'il y a relativement peu de monnaie. Bon, n'oubliez quand même pas que nous sommes déjà dans la deuxième moitié du XVIe siècle, que l'argent commence à arriver d'Amérique, on dirait qu'elle n'a pas encore beaucoup franchi les Pyrénées. Il existe 3000 marchés à peu près, 3 ou 4000 marchés dans l'ensemble du royaume de France, et puis l'impôt royal depuis le début, depuis Philippe le Bel, presque tous les ans, les paysans doivent au roi des sommes dont ils ne s'acquittent pas, ils ne s'acquittent pas en gerbes, ils ne s'acquittent pas en poulet, ça c'est dans le cadre de la seigneurie et dans le cadre de la dîme, ils doivent acquitter l'impôt royal en monnaie. Manifestement, l'insertion dans l'économie monétaire est progressive, elle est difficile. Nous avons essentiellement des unités qui vivent en autosuffisance. D'ailleurs, à cet égard, il ne faudrait peut-être pas généraliser la situation du nord du Cotentin. Vous n'avez pas, en lisant Gouberville, le sentiment de misère. Vous avez le sentiment de gens qui vivent certainement dans une atmosphère qui n'est pas du tout la nôtre. Enfin, vous n'avez jamais la notion même, le mot même de famine, enfin le mot de disette, c'est absolument exclu pendant ces 13 ans-là. On dirait que Gouberville, bien sûr, est à l'abri, mais autour de lui, aussi bien ses serviteurs que ses journaliers que vous voyez, vous n'avez personne qui n'y dit nulle part, vous n'avez même pas de gens qui viennent mendier dans le fond la nourriture. Il est vrai que nous sommes près de la mer. Vous avez la forêt qui est derrière, vous avez la mer qui est pas très loin, et on entend quelquefois le canon de la mer, il y a manifestement les fruits de mer. Enfin, vous n'êtes pas dans une région qui est menacée par la famine.
Dans la conjoncture économique décrite par Pierre Chaunu, quelles étaient les activités de l'entreprise agricole de Gilles de Gouberville ?
Il est un lieutenant des eaux et forêts, donc il est un officier du roi, avec tout ce que peut comporter cette charge des eaux et forêts, qui d'ailleurs en fait un campagnard finalement, parce qu'être officier des eaux et forêts, c'est aller visiter les forêts du roi, c'est aller se préoccuper du bois, etc. Et puis alors, il a son activité économique sur cette terre. Et le manoir du Ménil-Oval, comme d'ailleurs l'a dit Emmanuel Leroy-Ladurie dans le Vert Bocage, c'est une exploitation agricole vraiment polyvalente, pas où toutes les activités de la vie campagnarde sont représentées, aussi bien les activités de l'élevage, un élevage évidemment qui n'a rien à voir avec l'élevage du Cotentin actuel, n'est-ce pas, le comment dit-on, l'or blanc maintenant, parce qu'on appelle le lait, l'or blanc n'existe pas du tout à l'époque et existe d'autant moins qu'il n'est pas question d'exploitation des produits fermiers, des produits laitiers. Gilles de Gouberville achète du beurre et il achète quelquefois 40 kilos de beurre en même temps, n'est-ce pas, ce qui est assez considérable. Alors donc, il y a ces activités d'exploitation, c'est un élevage presque extensif. Et puis alors, il y a toute l'exploitation de l'herbe, des foins, n'est-ce pas ? Il y a, c'est une grande importance, les activités des foins pendant l'été, dans des conditions difficiles que vous connaissez, monsieur, n'est-ce pas ? Le climat est très humide et il est souvent difficile de faire le ramassage du foin dans des conditions correctes, et d'autant que du côté de Tour-la-Ville, là où il avait particulièrement ses prairies, l'herbe pousse, mais sèche mal, parce que c'est extrêmement humide, il y a même des sables mouvants. Et puis alors, enfin, il a des céréales, bien sûr, il y a du blé, il y a de l'orge, il y a du sarrasin, il y a même pas mal de blé. Et enfin, alors là, l'activité privilégiée, celle qu'il préfère par-dessus tout et auquel il a donné ses soins personnels, le reste, il surveille, il regarde, il examine, il commande, les activités, l'activité par excellence, c'est l'activité de sa pépinière. Ça, vraiment, il a été un pépiniériste, certainement, il s'est passionné pour cela. Et puis alors, en outre, c'est une activité encore importante, il régit donc ses terres, et il améliore. Et ce qui est très frappant et qui n'avait peut-être pas été, on avait peut-être peu insisté là-dessus, c'est ce défrichage de la terre, n'est-ce pas ? Il gagne de la terre à la culture. Et tout pendant toutes les années où nous possédons ce journal, il décailloute, enfin, il essarte, il remet en culture, n'est-ce pas, des surfaces en friche. Et là, il y est très attentif, il surveille ces choses-là. Donc c'est quand même un exploitant agricole qui est actif, qui s'intéresse vraiment à son entreprise, à son affaire, mais qui n'est pas du tout novateur. Il a une terre qu'il aime, il a un sens de la terre indiscutable, il a un sens de l'exploitation agricole, mais je ne crois qu'il n'a rien à voir avec un gentilhomme agronome, n'est-ce pas ? Il n'a pas du tout d'initiative, je ne le crois pas. Et au fond, entre les eaux et forêts et l'office royal et l'agriculture, il a fait le choix de la campagne et l'agriculture. Et il est vraiment un gentilhomme campagnard.
Gilles de Gouberville est un homme très sédentaire. Il voyage peu, il se déplace vers quelques villes, vers Cherbourg, vers Valognes. Et puis, dans sa vie, il y a le grand voyage qu'il fait du 20 janvier 1556 au 5 mars 1556, la même année. Il va donc rester absent de Ménilieuval pendant un mois et demi. Ce voyage, il va le faire vers Blois. Mm-hmm. Une raison pratique, il tente d'obtenir une nouvelle charge de maître. C'est aussi la confrontation de deux univers, celle de ce gentilhomme campagnard que nous avons vu dans cette région du Cotentin, avec une toute autre noblesse, celle de la cour. Comment se fait cette confrontation ?
Bien, écoutez, ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est que finalement, ça aurait pu, semble-t-il, être une rupture dans sa vie, un changement de perspective, un regard différent, et ça, ça apparaît très très peu dans le journal. Il est allé à Blois, il a tout de même vu, en effet, comme vous le dites, une noblesse qui est brillante, puisque bon, c'est la cour du roi qui se trouve là, etc. Et finalement, ça, on peut dire, très peu de retentissement dans son journal. Là où la vie a été marquée, c'est par la déception. C'est-à-dire que la cour, la vision de la cour, au lieu de modifier sa vie dans un sens plus dispendieux, dans un sens de plus d'ouverture, etc., au contraire, aboutit à une sorte de retrait, d'isolement plus grand. Il n'a pas eu sa charge de maître des eaux et forêts. Alors, à partir de là, on a l'impression qu'il vit d'une vie encore beaucoup plus sédentaire qu'auparavant. Ça m'avait frappé, j'ai même fait un calcul. Je me suis amusé, n'est-ce pas, à calculer ses allées et venues, ses kilomètres, etc., avant Blois, après Blois, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, on peut pas les interpréter autrement.
Il est pourtant accueilli d'une certaine façon dans ce château de Blois, puisqu'il voit le roi à plusieurs reprises,
oui,
Henri II.
Il le voit, mais enfin, il va même au bal, il assiste à une ou deux fêtes, mais au fond, il y assiste en quelque sorte en spectateur, n'est-ce pas, mais pas du tout un homme qui a cherché à se faire des relations, puisque au fond, il a passé pas mal de temps avec le valet de cuisine Petit Jean, qui était d'ailleurs dont le frère. C'est assez amusant, et c'est pas sans raison. Alors il arrive, et puis l'écuyer de cuisine Petit Jean, je crois que c'est ce nom-là, l'attendait, etc. Et c'est pas tout à fait sans raison, parce que Petit Jean avait un frère, et c'est toujours pareil, c'est cette espèce de sociabilité familiale étonnante. Il avait un frère qui était, Charon, ou Maréchal Ferrand, comme vous voudrez, du côté de Bayeux. Et alors il faisait ferrer ces chevaux-là. Alors il le retrouve à Blois, il est bien content de trouver en quelque sorte un pays, n'est-ce pas? Et alors il va dans les cuisines de Petit Jean. Et le dernier jour, avant de partir, avant de reprendre son équipée vers le manoir, eh bien il va dire au revoir à Petit Jean. Enfin, c'est un personnage qui a tenu une place à Blois.
Par contre, il ne semble pas avoir été très frappé par la personnalité d'Henri II, car lorsqu'il meurt en 1559, ça tient deux lignes dans le journal.
Absolument.
Et on
Absolument.
A l'impression qu'il ne l'a jamais vu, qu'il n'y a pas eu du tout de contact.
Non, ça c'est...
L'impression personnelle.
On me dit que le roi était mort, et puis il fallait ramasser le foin pour ce que le temps menaçait, et puis c'est la seule allusion... bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes sur l'image que l'on pouvait se faire du roi au moment même où il vit, n'est-ce pas? Non pas seulement la biographie telle qu'on la fait maintenant, mais au moment... Alors Henri II, pour Gouberville, c'est véritablement un personnage qui n'a quasiment pas existé.
Allant à Gouberville, le 27 mars 1562, je passe à Raffoville où je trouve le protonotaire de Sannes qui me conta comment M. de Guise avait, ainsi qu'on disait, tué un ministre de l'Église réformée. Le 27 avril, l'abbé de Cherbourg, pour un bruit et une voix qui est venue au matin, qu'il y avait tout plein de huguenots à la forêt qui venaient prendre l'abbaye. Et pour ce fol bruit et quelques autres considérations, le sieur de Magneville, baron de La Haye-du-Puy et le capitaine firent sortir de la ville tous les juges, avocats et plaideurs. Et étaient les habitants de la ville fort émus. Nous arrivâmes à Vire, après soleil couché, pour faire et délivrer les lettres d'adjudication. Ceux de la ville s'assemblèrent chez le lieutenant pour savoir qui nous étions. Ils pensaient que nous eûmes des arquebuses et pistolets. Nous fûmes parler au dit lieutenant. Il y avait bien 200 personnes assemblées dans la rue.
En quelque sorte, Gilles de Gouberville s'est mis à faire intervenir l'histoire dans son journal. Mais c'est quand l'histoire est venue à lui, quand l'histoire est entrée dans le Cotentin, c'est pas avec les guerres de religion, qui ont été tout de même extrêmement violentes et vives, et puis même dès les débuts, finalement. Alors à ce moment-là, vous avez l'événement historique. Mais sans
un petit
cela,
écho non. En 1551, à propos des événements de Calais entre
oui,
Français
c'est ça.
Et Anglais.
Oui, c'est ça. Alors deux ou trois événements, parce qu'il a rencontré des gentilshommes qui étaient du côté de Calais. Alors un ou deux événements, la mort du roi, parce que quelqu'un est venu dire que le roi était mort. Mais si vous voulez, pendant 10 à 12 ans du journal, vous n'avez pratiquement pas du tout l'événement historique. Et alors on pourrait dire, c'est un choix. Mais finalement, je ne le crois pas, puisque au moment où l'événement historique entre, n'est-ce pas, dans son espace de vie, dans le nord du Cotentin, alors à ce moment-là, ça y est, l'événement historique entre dans le journal.
Le 7 juin 1562, j'avais envoyé Simonet à Valognes me quérir une bottine que j'avais fait faire l'autre jour chez Lagarde et une paire de souliers pour 26 sequins. Il revint après soleil couché et me dit que quand il était à Beaumont, il ouït sonner le tocsin à Valognes et à Allium. À la relevée, on me dit que hier soir, il y avait eu à Valognes une si grande émotion populaire qu'on avait tué le sieur de Oiseville, le sieur de Coqueville, maître Gilet Michaud, médecin, Gilles Louvet, tailleur, Robert de Verdun et Jean Giffard, dit Pont-l'Évêque, et plusieurs blessés. Et les maisons de Coqueville pillées et détruites. Et que les corps des défunts étaient encore en la rue ce jour-là après-midi. Et les femmes de Valognes venaient encore donner des coups de pierre et de bâton sur les 10 corps.
Pierre Chaunu, dans le journal de Gilles de Gouberville, on sent à la fois assez éloigné les guerres de religion,
oui,
et en même temps très proche par un certain nombre de notations. Comment est-ce que les idées de la réforme ont pénétré dans les campagnes, particulièrement dans ces campagnes de Basse-Normandie?
C'est ce qui me paraît très net, c'est qu'elles n'ont pas pénétré au Ménil-Oval. Ça, je veux dire là-dessus. Je crois que je me permettrai d'être très franc. Nous sommes en présence, je dois dire, d'une piété, je ne dirais pas catholique, parce que finalement, catholique, dans une certaine mesure, s'applique surtout après la réforme catholique du XVIe, XVIIe siècle. Nous sommes avant le Concile de Trente. Vous savez, le Concile de Trente, on n'en est pas question. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule fois, le mot concile n'a été prononcé. Nous sommes dans la piété traditionnelle de la chrétienté médiévale, c'est-à-dire c'est une piété fondamentalement gestuelle. Le mot messe revient 600 fois, je crois, dans le journal. C'est 400 ou 600 fois, c'est de cette ordre de grandeur.
C'est-à-dire que Gilles de Gouberville assiste régulièrement aux offices tous les dimanches.
Sauf quand il est très enrhumé, parce que c'est aussi un personnage qui s'écoute. Enfin, manifestement, il est assez bouleversé dès qu'il lui arrive un petit quelque chose.
Pratique les sacrements, et notamment la confession.
Et il communie avec tout son monde. La réforme. Car il n'est pas douteux que la réforme protestante, la Normandie, et particulièrement ce coin de la Normandie, est une zone qui a été touchée. Alors, il y a les événements de Valognes, qui sont d'ailleurs des événements extrêmement sanglants. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment il rapporte ces événements. Vous vous rappelez par où il dit. Et dire très sobrement, on a vu, il y avait des morts par terre. Théodore de Bèze, qui raconte dans la grande histoire des troubles du XVIe siècle, l'événement précise que on leur avait arraché les yeux. Mais je fais remarquer que Gouberville ne note pas ce détail.
Tout de même, Gilles de Gouberville semble assez sympathique aux idées de la réforme et il serait plutôt du côté des Huguenots.
Oh, je ne le crois pas. Je ne vois rien dans la sensibilité, dans la culture de Gouberville qui pourrait en faire un Huguenot. Cet homme est très attaché aux signes, aux gestes. Il a beaucoup trop le sens du groupe dans lequel il est. Je ne vois vraiment pas Gouberville s'engageant dans quelque chose qui serait la Iquetnoc, où il est, une rupture avec son environnement, une rupture avec le passé, au nom d'un appel qui serait une exigence de la parole de Dieu. Je le vois par contre très bien, comprenant, pénétrant, et même, je dois dire, peut-être dans la mesure où il y a menace, dans la mesure où il y a une pression extérieure, découvrant toute la valeur de ces gestes qui lui viennent de son passé, de son enfance et de son environnement.
Pourtant, sincèrement, je lorsque ne crois pas. Les guerres de religion arrivent aux portes de son manoir, c'est-à-dire sont à Valognes, il semble qu'il ait plus ou moins choisi son parti. Et il se sent menacé. Il se sent menacé parce qu'il se sent dans un camp.
Ah, mais tout le monde est menacé. Ah non, mais je ne crois pas. Je me demande si Gouberville n'est pas particulièrement menacé, parce que précisément, Gouberville n'aime pas choisir. Et Gouberville aurait toujours été du côté de la majorité. Il aurait toujours fait le choix avec les autres. Je ne vois absolument pas Gouberville choisissant contre. Il est tout simplement angoissé parce qu'effectivement la situation est angoissante. Et qu'en 1560, on ne sait absolument pas de quel côté ça va tomber. Et je dois dire même, on ne sait même pas S'il y a deux côtés, car il faut bien que vous compreniez que la réforme, c'est la réforme de l'Église, qu'il est bien évident qu'il existe un consensus sur la réforme de l'Église. D'ailleurs, ne l'oubliez pas que le Concile de Trente a préconisé la réforme catholique de l'Église. Par conséquent, il y a ce consensus, le fait que l'Église a besoin d'être réformée, elle a besoin d'être plus fidèle. Mais et dans le fond, les chrétiens, que ce soit individuellement ou que ce soit en groupe, se sentent toujours interpellés à plus de fidélité. Dans cette perspective, la phrase de Leibniz s'applique parfaitement. Ecclesia reformata semper reformanda. Vous pourriez tout simplement dire Ecclesia semper reformanda, en supprimant le reformata. L'Église a toujours besoin d'être réformée. Vous savez, en vérité, c'est en 1560 que se termine cette phase que l'on appelait la phase évangélique, où véritablement, on n'a pas à choisir à être catholique ou protestant. On est pour une réforme de l'Église qui maintiendra ce qui est absolument fondamental dans la sensibilité des hommes comme Gouberville. Or, nous sommes au moment où la rupture va se faire. Et à partir du moment où la rupture va se faire, soyez sûr que Gouberville et les hommes qui sont comme lui, et il n'y a de ma part aucune espèce de critique, c'est une constatation, seront toujours du côté, finalement, de la majorité. Parce qu'il leur semblera tout simplement que l'évidence de l'Église, c'est l'évidence d'être ensemble.
Le 18 juin, on me manda par trois fois à Cherbourg que je me donnasse en garde et que Monseigneur de Matignon devait passer séant et saccager ma maison. Et pour ce que je ne me sentais en rien fauteur, je ne me soucie guère, et aussi qu'il est plus de fausses nouvelles que de vraies.
Qu'est-ce qui se passe exactement à Valognes à cette époque?
Mais écoutez, il se passe en fait ce qui se passe dans un certain nombre de régions, justement, où il y a eu vraiment éclatement et tension. Il est incontestable que ce qui se passe dans le Cotentin, c'est ce qui s'est passé, il faut bien dire, dans tout le midi de la France. C'est ce qui s'est passé plus rarement dans le nord de la France. Mais vous savez qu'en gros, on peut dire qu'en 1560, on considère qu'entre le cinquième et le quart des Français penchent du côté de la réforme. Entre les trois quarts et les quatre cinquièmes, du côté de l'Église traditionnelle. Situation de clash. Que par contre, au sud de la Loire, il y a à peu près entre le tiers et le quart de la France qui est contrôlé par des cadres qui, alors que la masse de la population finalement est assez peu perturbée, il y a à peu près le quart de la France qui est contrôlé par un pouvoir qui penche du côté de l'Église rénovée, selon les normes et les règles de la réforme. C'est ce qui se passe très concrètement dans cette partie du Cotentin. Mais franchement, l'hésitation ne dure pas, et à partir de 1562, c'est Matignon qui contrôle la situation. Et par conséquent, les protestants sont coincés, ils sont en position de défensive. Alors, ils sont justement particulièrement dans une ville comme Valognes.
Le 19 au matin, on me manda encore que le sieur de Matignon était fort mal affecté avec moi, par quoi tout le jour, je ne cesse de cacher mes coffres et autres meubles, et fit seller et brider mes chevaux et les mener au bois et leur porter foin et avoine par Arnoux et Pinchon qui les gardèrent tout le jour.
Dans son journal, les seuls échos de l'histoire, de la grande histoire qui viennent jusqu'à ce petit village du Cotentin, Emmanuel Leroy Ladurie, c'est la première guerre de religion qui vient jusqu'aux portes de Valognes, jusqu'à Valognes, c'est-à-dire à quelques kilomètres de son manoir. Où se situe-t-il exactement dans cette guerre entre catholiques et protestants?
Eh bien, il y a quand même d'autres échos. Un jour, il apprend la mort du roi Henri II, qu'il note en deux mots. Il y a vaguement des Anglais qui circulent à l'horizon, sur la mer, au moment de guerre avec les Anglais. Alors du coup, il va voler des vaches dans l'île d'Origny, je crois, avec les gars de sa ferme. Une peste à un moment, mais c'est pas beaucoup une peste. Ça prouve que la peste était toujours très dangereuse, mais pas tellement fréquente à cette époque. Moins fréquente qu'elle n'était certainement plus tôt. Alors effectivement, la grande histoire ne fait irruption, et je crois que c'est typique, qu'avec les guerres de religion. Et il n'y a pas de doute qu'au début, il a quand même été un peu tenté par cette espèce de réforme du christianisme qu'était le protestantisme. D'abord, sa religion s'est certainement approfondie au cours des années. Elle est assez sèche dans ses premiers textes, et peu à peu, on voit un homme qui essaie de s'identifier au mérite du Christ, qui notamment fait un testament d'une beauté assez émouvante. Puis il y a la fameuse phrase, n'est-ce pas, « Il n'y a qu'un seul Dieu ». On est là devant un homme qui, sans doute, a une piété profonde, et bien que là aussi, un bon Normand qu'il est, il ne cherche pas trop à la montrer, là je crois aussi que c'est un caractère normand. La Normandie est un pays, comme tous ces pays de bocage, c'est pas la boîte, c'est un pays très catholique, où on peut dire que le christianisme est enraciné dans toutes les haies du bocage. Ce sont des pays à la fois du cidre et de l'eau bénite, mais les gens ne sont pas exhibitionnistes, et ils gardent cette croyance dans le fort intérieur de leur conscience. Et à un certain moment, il a pu en effet sympathiser avec la réforme. Et puis, vous savez, c'est comme un peu pour le socialisme, si vous voulez, il était un peu effrayé à un certain moment. Ça allait trop loin. Et puis, enfin, c'est un homme prudent. Quand il a vu que les catholiques de Valogne allaient commencer à pendre haut et court les protestants, ben, il a senti qu'il valait pas mieux. Il valait mieux ne pas faire l'imbécile. Et il est rentré dans le giron catholique, car Valogne était vraiment une ville, comme beaucoup de ces petites villes, une ville ultra-catholique.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Nous avons rencontré des agriculteurs du Ménil-Oval et nous leur avons demandé, y a-t-il encore des protestants dans la région? Et ils nous ont dit de manière catégorique, non, ici tout le monde est catholique croyant.
Oui, il n'empêche qu'il y a, le protestantisme normand était un protestantisme un peu seigneurial et urbain. Il y avait des protestants à Caen. Moi j'avais des cousins protestants, mais enfin, comme ils étaient républicains, n'est-ce pas, nous ne les voyions plus depuis le 18e siècle à peu près. Alors ça, c'était un peu éloigné. Une partie a quitté Rouen, et Caen et surtout Rouen au moment de l'édit de Nantes, en 1685. D'autres se sont reconvertis, mais il y a encore des communautés protestantes, mais plutôt dans le Calvados. Et alors il y a un mot qui est resté, et là je suis sûr que s'il y a des gens de la Manche qui m'entendent, là ils vont réagir. Dans certains coins de la Manche, on appelle encore un âne un ministre. Et ça, c'est évidemment la propagande des curés du XVIIe siècle contre les protestants. Le ministre, c'est-à-dire le pasteur protestant, c'est l'âne. Et ça m'a interdit par justement une sorte de Gouberville normand, un marchand de vaches que j'ai connu il y a une trentaine d'années, et qui m'a dit, c'est curieux, pourquoi appelle-t-on dans le Cotentin un âne un ministre? Et bien voilà, c'était pour réagir contre la propagande des protestants.
Par des chemins divers, grâce au passage d'un colporteur vendant, avec un peu de mercerie, quelques opuscules imprimés à Lausanne ou à Genève, grâce à la prédication de quelques clercs convertis aux nouveautés, comme celui que le sire de Gouberville et plusieurs autres gentilshommes et damoiselles de leur compagnie s'en vont entendre le lundi de Pâques 1561 en plein air, les idées réformées avaient pénétré jusque dans les campagnes. Dans cette société sensible aux hiérarchies, on peut penser que le rôle des notables fut plus déterminant qu'en ville. Dans tout l'Ouest Atlantique, c'est l'attitude du curé, du seigneur, du notaire, des bourgeois, du bourg voisin qui entraîna la masse rurale vers la réforme. Même chose en Normandie, au moins pour un temps. Le journal du sire de Gouberville est bien caractéristique à cet égard. Après avoir adopté les idées nouvelles, il s'effraie. La ferme attitude du représentant du roi l'amène à la sagesse. On le revoit à la messe et il proteste de son obéissance au roi et de son désir de vivre en la loi et foi de notre Seigneur Jésus-Christ et selon les lois de la Sainte Église romaine. Ainsi, à l'imitation de leur noble sire, les paysans de Ménilval restèrent-ils dans le giron du catholicisme ? De même pour ceux de l'Île-de-France, si proches du Paris catholique et des forces de répression. Jean Jacquard, Histoire de la France rurale.
Qu'est-ce qui a été touché par la réforme protestante? Ont été touchés par la réforme protestante, je dirais, une sorte de middle class. Bien sûr, il y a une partie de l'élite, la grande noblesse, mais il y a quand même très concrètement le monde des artisans et le monde de la petite et moyenne bourgeoisie. Parce qu'il y a quand même une condition qui n'est pas une condition sine qua non, c'est d'être un tout petit peu lisant-écrivant. Or, lisant-écrivant, n'oubliez pas que nous sommes à une époque où il y a au maximum 10% dans les régions les plus favorisées de gens qui sont capables de lire et d'écrire. C'est là que se fait le choix individuel. Dans les pays qui ont adopté la réforme, C'est toujours une décision de l'élite avec des gens qui ont traîné les pieds. Vous pensez bien que, de toute façon, si l'Angleterre est passée dans la réforme, c'est par une décision du pouvoir d'en haut. Mais rappelez-vous le pèlerinage de grâce. Il est presque contemporain. Et puis l'Angleterre, c'est pas très loin. Lorsque vous demandez aux Goubervilles anglais, eh bien, les Goubervilles anglais, ils sont pour la vieille église. Et finalement, c'est simplement la pression des élites, la pression du roi, qui les entraînera finalement à quoi? Mais finalement, à une forme de vie religieuse qui sera progressivement différente de celle qu'ils ont connue. Mais ne demandez pas aux gens qui vivent au Ménil-Oval de faire ce choix existentiel dramatique. Ils ne sont pas armés pour le faire. Et de toute façon, les paysans du Ménil-Oval n'ont jamais été tentés par la réforme. Eux. Ceux de Valognes-ci, mais pas eux.
Le samedi 4 juillet, on ne cessa d'ouïr artillerie vers l'amont, et jugeait-on que c'était au Havre-Neuf ou à Dieppe. Damour vint de Cherbourg qui nous dit qu'il était venu des mariniers du Havre, qui disaient qu'on n'avait point tiré d'artillerie ni au Havre ni à Dieppe, et qu'il fallait que ce fût en la mer ou bien que ce fût le ciel qui tonna. De Goubervilles.
Les inconnus de l'histoire, Gilles de Goubervilles par Jean Montalbetti, médiateur Pierre Chaunu, expert Madeleine Foisil, consultant Emmanuel Leroy-Ladurie, avec la participation de Louis Duménildo, exploitant agricole du manoir d'Anneville-en-Serre. Les lectures extraites du Sire de Goubervilles par Madeleine Foisil, de La Verdure du Bocage par Emmanuel Leroy-Ladurie, de L'Histoire de la France rurale, texte de Jean Jacquard et du journal Mises et recettes de Gilles de Goubervilles, ont été faites par Yves Marie. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son en Normandie, Philippe Noir de FR3. Réalisation, Albert Morin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 janvier 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, ainsi que la première, durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Thank you.